France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Jacques Chirac ne s'arrête jamais. Épisode 1, le bulldozer.
Super, merveilleux, c'est la vie qui reprend. Bravo Chirac.
Ça va vraiment faire un changement, je suis vraiment très très heureuse. Pas plus, je peux pas dire un autre mot, c'est vraiment là quoi.
Enfin après 14 ans de socialisme, enfin on va avoir un bon président.
Je suis très contente, j'ai vraiment envie du changement.
C'était il y a 30 ans, en 1995, Jacques Chirac devenait le 5e président de la 5e République. Depuis près de 3 décennies, on l'avait vu à tous les postes, de député à ministre, faisant tournoyer ses grands bras dans toutes les directions. Il avait été 3 fois maire de Paris et 2 fois chef du gouvernement, mais ce CV impressionnant ne semblait pas le satisfaire. Il avait voulu à tout prix gravir la toute dernière marche, et à 62 ans, il entamait un règne de 12 années à l'Élysée, soit la deuxième durée la plus longue pour un président sous la 5e République, après les 14 années au pouvoir effectuées par François Mitterrand. 12 ans de magistrature suprême, dont 5 années, il est vrai, dans une cohabitation avec Lionel Jospin, un homme qui semblait son parfait opposé, sur la forme comme sur le fond. Ses mandats seraient marqués par des hésitations, des revirements et des erreurs stratégiques, mais aussi par des gestes humanistes, que ce soit avec le refus d'engager la France dans la guerre en Irak, comme avec la dénonciation de notre immobilisme face aux dégradations de l'environnement. Sur les étagères de la salle des archives, le rayon Jacques Chirac est bien fourni. Mais très peu de ces documents sortent réellement de l'ordinaire des déclarations politiques, dépassent le commentaire de l'actualité du moment, comme si Chirac n'avait jamais voulu se confier réellement, ni dire publiquement qui il était. On a parfois l'impression que ce sont les photographes, mieux que les intervieweurs, qui ont pu approcher la vérité de cet homme. On pense à cette photo où il saute au-dessus du portillon du métro, ou à celle qui le montre dans un avion, masque sur les yeux, jambes étendues, dans cette posture de jouisseur décontracté qui survole les événements. C'est peut-être dans ces moments qu'il était le plus lui-même, quand ses pieds ne touchaient pas terre. Nous avons tout de même déniché, sur quelques bandes magnétiques fanées, des moments où l'homme l'emporte sur le politique, où l'individu abandonne la carapace, parfois même sans s'en rendre compte. Et puis il y a aussi quelques débordements du cadre qui sont passés à la postérité.
Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac.
Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou quoi?
Non, on ne chauffe pas l'appareil.
Monsieur Chirac, est-ce que vous aviez un ours quand vous étiez petit?
J'avais un lapin. Bon, on vient vous clasher.
Vous n'aviez pas d'ours?
Je n'avais pas d'ours. J'avais un lapin, mais auquel je tenais beaucoup.
Durant ces 6 épisodes, nous vous raconterons à la fois l'homme et sa politique, même si concernant Chirac, la biographie a tendance à tout recouvrir, comme si sa personnalité sympathique et son énergie légendaire qu'il mettait entièrement au service de la conquête du pouvoir résumaient l'ensemble de son passage à la tête de l'État. Pour les jeunes générations, il est d'ailleurs peut-être davantage un élément de pop culture qu'un monument de notre histoire politique.
Jacques Chirac ne s'arrête jamais. Une série en 6 épisodes de Salle des Archives. Proposée par Mathieu Garrigou-Lagrange, Gilles Blanchard et Lily Corner.
Jacques Chirac, on s'accorde à dire que vous avez sans doute un destin. Il est sûr que vous voulez être l'un des princes qui nous gouverneront. Vous avez la confiance du président de la République. Vous regardez les sommets. Et vous êtes déjà ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Êtes-vous le prototype de ceux qui doivent nécessairement réussir?
C'est une question dont le moins qu'on puisse en dire est qu'elle est délicate. Car une question appelle une réponse, par oui ou par non. C'est sa vocation même. Si je vous dis oui, vous direz vraiment, en voilà un qui n'a pas de complexe. Si je vous dis non, vous direz qu'elle est hypocrite. Et si j'essaye de faire des phrases, vous direz que c'est une échappatoire. Vous voyez par conséquent que ma situation, par votre fait, est délicate. En réalité, que je veuille réussir dans le cadre de la mission qui m'est impartie, c'est évident. Que j'ai un destin, comme vous le suggérez, Je suis probablement le seul à ne pas pouvoir le dire.
Les autres le disent pour vous.
Il y a en tous les cas une chose certaine. Je ne sais pas si j'ai un destin, mais j'ai une mission et la volonté bien déterminée de la remplir.
Jean-Luc Barré, vous êtes écrivain et président des éditions Plomb. Vous êtes aussi l'auteur du livre Chirac confidentiel, dans lequel vous racontez les dernières années de l'ancien chef de l'État que vous avez bien connu et dont vous avez signé les deux tomes des mémoires, rédigés à partir d'entretiens que vous avez faits avec lui. Qu'est-ce que vous retenez de cette première archive?
Je retiens qu'il ne sert à rien avec Chirac, il ne servait à rien d'être très direct dans les questions, parce qu'il a l'art de se dérober, et on ne le sent pas du tout à l'aise. Il n'était pas à l'aise d'abord d'une manière générale devant les journalistes, un peu embarrassé, et il est bien conscient d'avoir un destin, en tout cas d'avoir, et c'est un homme déjà très ambitieux et qui est très lancé, mais il avait aucune aisance verbale comme ça. On voit bien, c'est presque un peu mécanique cette façon de répondre. Il était beaucoup plus à l'aise en privé, là il pouvait être extrêmement drôle, il aurait dit d'autres choses, mais on sent qu'il se retient beaucoup. Et cette retenue fait partie de la construction du personnage.
Cette idée que c'est un homme conduit par l'ambition, est-ce que vous y adhérez ?
Oui, enfin, c'est plus complexe que ça, parce que je pense que souvent, les choix qu'il a été amené à faire en politique, notamment son engagement en politique, ou plutôt son engagement dans les élections, lui a été en partie dicté, en tout cas il le disait, par Georges Pompidou, par son épouse, qu'il a encouragé à faire de la politique, à aller plus loin. Je pense que si ça avait tenu qu'à lui, peut-être qu'il aurait fait une autre carrière, tout simplement. Mais après, c'est un homme d'aventure, il était lancé, et je pense qu'il a pris goût au pouvoir, il a pris goût à l'action, surtout, mais sa vie était aussi un peu ailleurs, donc il a joué sur cette dualité.
Au scout, son surnom, son nom de totem était Bison égocentrique. Est-ce que vous diriez que ça lui correspondait bien, Jean-Luc Barré ?
Bison, oui, parce que c'est un fonceur, parce que c'est un homme... D'abord, il avait cette stature très impressionnante, dont il ne se servait pas à outrance. Moi, je suis de taille plus petite qu'il n'était lui, et j'ai jamais eu le sentiment... Vous savez, il y a des gens qui sont très grands, qui vous donnent l'impression de vous écraser. Lui, ça n'a jamais été le sentiment. Il avait quelque chose de... Pas du tout, il y avait une espèce de bonhomie chez lui, en même temps, c'était un type extrêmement énergique. Je dis un type, parce que le mot lui aurait plu. C'est un type énergique, etc. Égocentrique, je trouve ça un peu exagéré, parce que je pense qu'il n'y avait pas chez lui un tel amour de soi, une telle conscience de soi. Il n'a pas construit les choses par rapport à lui-même. Et d'ailleurs, je l'ai observé souvent en parlant avec lui, quand on a travaillé ensemble, le mot « je » était un mot qui lui était quasiment étranger. Il n'aimait pas parler de lui, et donc il s'est pas construit autour de lui-même. C'est une autre idée, finalement. Il y a quelque chose d'assez asiatique dans l'idée du détachement de soi.
Jacques Chirac est passé par Sciences Po, par l'ENA et par les cabinets ministériels. Autant de lieux où l'on apprend que le langage est une arme, que ce soit d'attaque comme de défense. Il maîtrise très vite l'art de répondre aux questions sans jamais trop se mouiller, de dire sans dire et de se cacher derrière les mots. Mais avec Jacques Chancel, intervieweur célèbre de France Inter durant des décennies, il est plus difficile de se cacher, car Chancel est plutôt du genre direct.
Vous avez été servi pour votre jeunesse et un certain style physique.
Vous le dites, c'est possible. J'espère qu'il n'y a pas absolument que cela. Vous l'affirmez, c'est gratuit.
Non, ce n'est pas gratuit. Cela a été dit souvent.
Vous savez, je ne suis pas convaincu que, surtout en matière de politique, le physique soit un élément déterminant, dans un sens ou dans l'autre.
Au moment des élections, par exemple.
Croyez-vous véritablement que l'électeur...
Parlons de l'électrice, est-ce qu'elle peut être sensible à la physique ?
Elle a incontestablement son importance, il est possible qu'elle le soit. C'est une question que je ne me suis jamais posée. En tous les cas, je ne mets pas cela dans le cadre de mes arguments électoraux.
Évidemment, Jacques Chancel, d'emblée, aborde un aspect essentiel, évidemment, qui est son apparence physique, son charisme, et tout ça l'embarrasse. Il y avait chez lui... Il avait horreur de parler de lui. Hein. Enfin, c'est ça, le fond des choses. Il n'aimait pas en parler. Quand il le faisait... Alors, il le faisait rarement... Il était très à l'aise en privé, mais rarement, dès qu'il y avait un micro ou un tiers qui était là... Au fond, c'est un personnage qui s'est un peu construit contre lui-même et en tout cas, qui n'avait aucune forme de narcissisme.
Jacques Chirac est né en 1932 à Paris, d'une famille originaire de Corrèze. Son père est un banquier et ses deux grands-pères sont des instituteurs devenus directeurs d'école des hussards noirs de la République. Élève moyen, le jeune Chirac rêve d'aventure. Après son bac, en cachette de sa famille, il s'enrôle sur un bateau de l'Union industrielle et maritime sur lequel il passe 3 mois en tant que pilotin. Au retour, son père est sur le quai pour lui passer un savon et le faire rentrer dans le rang, c'est-à-dire en classe préparatoire scientifique. Enfin, ça, c'est l'histoire que Jacques Chirac a racontée, parce qu'en réalité, il est plus probable que ce soit par les relations de son père, justement, qu'il ait trouvé cette position et qu'il n'ait pas vraiment été ce jeune aventurier rebelle à sa famille, dont il parlait d'ailleurs avec complaisance. Peu importe, l'image est belle et il va s'en servir. À son retour à Paris, il entre en classe préparatoire scientifique, mais le cursus ne lui convient pas. Il parvient à convaincre ses parents qu'il serait mieux à Sciences Po, rejoint donc l'école de la rue Saint-Guillaume et puis quelques années plus tard, poursuit son cursus à l'ENA. Entre-temps, il a voyagé aux États-Unis où il a même failli se marier, mais les familles des deux côtés de l'Atlantique ont empêché cette union. Et puis il y avait ce détail qui n'en est pas un, Jacques Chirac était alors déjà fiancé à Bernadette Chaudron de Courcelles. Par rancunière, elle acceptera de le prendre pour époux à son retour en France, une attitude qui préfigure les relations qu'ils auront tous les deux leur vie durant, elle amoureuse, lui volage et inattentionnée, comme l'a portraituré la cinéaste Léa Domenac dans son film Bernadette.
Bernadette ? Mon nœud s'est encore coincé. Déjà 3 heures, on a une journée infernale demain. Vous avez pensé aux fleurs pour Laurence ?
Oui, Jacques.
Faudra aussi appeler l'Elysée pour faire installer une niche pour Sumo. Ah, et bien vérifier que les déménageurs ont correctement emballé mes statuettes, surtout la Bambara. Et aussi le petit masque Zambo en cuir, il est très fragile. Dites-leur de faire bien attention. Ah oui, et pendant que j'y pense, il faudrait me racheter des Weston. 2 paires au moins.
Ce sera tout ?
Oui. Allez, bonne nuit.
Dès les premiers temps de son mariage, Jacques Chirac part faire la guerre en Algérie. Il y reste 18 mois et la vie militaire lui plaît, au point qu'il caresse un temps l'idée d'une carrière dans l'armée. Pourtant, rentré en France, c'est à la Cour des comptes qu'il atterrit, et voilà ce haut fonctionnaire bientôt chargé de mission auprès du secrétariat général du gouvernement, puis au cabinet de Georges Pompidou. La suite va aller très vite.
Vous savez, j'ai été pendant 6 ans, ou presque, chargé de mission au cabinet du Premier ministre. Et véritablement, j'y ai connu certainement les heures parmi les plus exaltantes et intéressantes que j'ai été amené à vivre. Et lorsque, d'un seul coup, sortant d'une bataille électorale, vainqueur et de justesse d'ailleurs, j'ai été appelé par le Premier ministre à occuper un poste de secrétaire d'État au gouvernement, je n'ai pas eu le sentiment d'une promotion particulière. Car les fonctions que j'avais occupées auparavant étaient des fonctions qui, pour ne pas avoir le panache des fonctions gouvernementales, sont également très importantes et très intéressantes et donnent le contact permanent avec le gouvernement, avec le ministre, avec le Premier ministre, quand on est à son cabinet, ce qui était mon cas. Très sincèrement, je n'ai pas ressenti un phénomène de promotion. D'ailleurs, le président de la République m'avait dit, Monsieur Pompidou, à l'époque Premier ministre, m'avait dit très rapidement, quand il m'avait nommé, sans faire de commentaires excessifs, il m'avait dit, surtout ne vous prenez pas pour un ministre. Et c'est une phrase qui m'avait frappé, je crois qu'elle était celle du bon sens. Je n'ai pas eu de mal à m'y conformer.
Alors qu'à ce moment-là, il vous donnait un strapontin, mais ensuite il vous a donné un fauteuil.
Oui, mais la phrase était toujours valable.
Jean-Luc Barré, cette archive de 1972 tend à accréditer l'idée que, en effet, Jacques Chirac est entré en politique un peu par hasard.
Oui, vous avez tout à l'heure évoqué sa jeunesse. Je pense que c'est tout à fait vrai. Hein. L'évasion, le moment où il s'en va sur ce cargo, et puis les
États-Unis. Donc son père ne savait pas.
Ah non, il ne savait pas. Non. Et ça a été.
C'est assez controversé. Dans le film de Philippe Rothman, on considère que son père savait et que en réalité.
En tout cas, il est parti dans des conditions telles et son père l'attend sur le quai au Havre, je crois. C'est vraiment pour le sermonner. Je pense que c'était son genre de filer comme ça. Beaucoup de moments de sa vie, y compris dans sa vie conjugale, il avait une formule, il disait à Bernadette, je file. Et quelque part, c'est un peu vrai aussi là. Je pense qu'il y a quelque chose d'un rebelle chez lui. Il aimait à dire que dans sa jeunesse, un de ses meilleurs amis était un jeune communiste et il marchait pieds nus dans la montagne. Mais il y a un côté vagabond comme ça et quelqu'un qui a des impulsions. Mais ce qui est très frappant chez lui, c'est qu'on le retrouve dans sa politique d'ailleurs après, c'est qu'il a des intuitions, des moments d'évasion, des moments de rupture où il est presque un peu révolutionnaire dans sa façon de vivre. voiture, puis il rentre à quai, il rentre dans l'ordre. Là, et c'est pour ça que je ne crois pas tellement que le père ait été au courant, enfin on ne le saura vraiment jamais, mais je crois volontiers le raconter de telle manière que ça ressemblait vraiment à une fugue. Et puis les États-Unis, il est parti, ça c'est son, enfin, évidemment les parents étaient au courant, il était majeur à l'époque, mais ce n'est pas forcément pour revenir. Donc il échappe quand même. Il y a des moments où il a envie de rompre avec l'ordre bourgeois qu'on essaie de lui imposer, et c'est pas du tout un bourgeois, Jacques Chirac.
Alors, il profite quand même de l'ordre bourgeois, quand, après, du coup, avoir voulu se marier avec une Américaine, ça ne marche pas, il rentre voir Bernadette Chaudron de Courcelles, qui, finalement, l'accepte et accepte qu'il revienne.
Oui, ça correspond à ce que je vous dis, c'est-à-dire il y a toujours un retour à l'ordre. C'est un être très complexe. Je pense qu'à un moment donné, il va aux États-Unis, il tombe amoureux de cette jeune Américaine. Bon, il m'en parlait dans les années, il y a 20 ans ou 15 ans, avec encore. Il m'avait dit, un jour, il m'avait montré la photo, il m'a dit, vous avez vu comme elle était belle. Enfin bon. Donc, en fait, il reçoit un ordre. Il n'y a pas de rupture vraiment. Il rentre à Paris, parce qu'il faut qu'il rentre à Paris, et là, qu'il faut qu'il se marie. Alors, la relation avec Bernadette, on en parlera peut-être, c'est une relation aussi de sentimentale, d'amour. Enfin, il n'a pas vécu tant de temps avec cette femme sans l'aimer. Mais en fait, il n'a jamais été tout à fait à sa place. Nulle part d'ailleurs, ni dans le pouvoir, ni dans sa vie conjugale.
Alors justement, c'est un mystère, Jean-Luc Barré, cette idée qu'au fond, il est entré en politique, mais il aurait pu faire autre chose. Oui. Et pourtant, il devient président de la République. Or, on imagine que pour arriver à vaincre toutes les difficultés qui jalonnent la route pour devenir président de la République, il faut vraiment aimer la politique.
Moi, je pense qu'il l'a aimé comme une aventure. J'insiste beaucoup sur ce mot-là. Je pense qu'il a pris goût à un certain moment. D'abord, il était très heureux à Matignon et Pompidou. Après, il est retenu. Il a fait de la politique en Corrèze, donc sur son terrain, auprès de ses amis. Il a retrouvé sa terre natale. Enfin, sa terre natale n'était pas née en Corrèze, mais c'est le berceau familial. Donc là, je pense qu'il a. Il aimait les gens profondément. Donc il y a ce contact. Puis il y a la conquête, en effet. C'est plus un homme de conquête que d'exercice du pouvoir, d'ailleurs. Donc, ce conquérant qui aurait pu être à la tête qui a pris plaisir à la tête d'une troupe en Algérie, à diriger des hommes, bon, bah, il va se retrouver un peu dans une même expérience humaine, finalement, moins, parfois plus décevante pour lui que s'il avait été soldat, il me l'a souvent dit. Et puis, il y a un moment où, bien sûr, il y a la griserie du pouvoir. Évidemment, il y a cette griserie-là. Donc, il va devenir président de la République. Je dis un peu par la force des choses. Enfin, il y a un entraînement qui fait que progressivement, il fait une carrière. Donc, mais je pense que c'est pas programmé. Voilà.
Depuis le début du XXe siècle, la troisième circonscription de Corrèze semblait appartenir aux radicaux et aux socialistes. Encouragé par le président Pompidou, Chirac s'y présente pourtant en 1967 et parvient à se faire élire à force de poignées de main et de petits coups de blanc au comptoir. Il va demeurer député de cette circonscription sans discontinuer pendant des décennies jusqu'à son élection à la présidence de la République, laissant bien souvent, il est vrai, son suppléant siéger à sa place. Il faut dire que Jacques Chirac est très occupé par ses postes ministériels. Secrétaire d'État à l'emploi sous la présidence de Gaulle, secrétaire d'État à l'économie et aux finances entre 1968 et 1971, ministre chargé des relations avec le Parlement entre 1971 et 1972, poste qu'il n'a pas tellement apprécié par ailleurs, ministre de l'Agriculture entre 1972 et 1974, et enfin, brièvement, ministre de l'Intérieur juste avant la mort de Pompidou. Durant la campagne présidentielle de 1974, Chirac se rallie stratégiquement à Valéry Giscard d'Estaing, le candidat de la droite centriste. Il apporte ainsi au candidat les voix précieuses de la famille gaulliste qui lui permettront d'être élu. Et c'est précisément pour arrimer les gaullistes à sa majorité que le nouveau président de la République nomme Jacques Chirac Premier ministre.
Jean-Luc Barré, qu'est-ce qu'on peut retenir des deux années passées par Jacques Chirac à Matignon comme Premier ministre ? La loi Veil sur l'avortement, l'abaissement de la majorité à 18 ans, la loi contre la discrimination à l'embauche en raison du sexe. Est-ce que ce sont des lois qui sont des lois de Jacques Chirac, portées par Jacques Chirac, ou est-ce que vraiment c'est Valéry Giscard d'Estaing qui souhaite que ce programme soit mis en place ?
Moi, je pense que l'inspiration est du côté du président de la République. mais que, par exemple, si je prends le cas de la loi Veil s'était heurtée à la résistance très forte de toute une partie des plus conservateurs dans la majorité gaulliste, et c'est Jacques Chirac qui, d'abord, était très proche de Simone Veil, qui, le soir décisif à l'Assemblée du vote, est allé expliquer à ses troupes qu'il fallait voter cette loi. Et je pense qu'elle correspondait profondément à ce que lui ressentait. J'ai aucun doute là-dessus. Mais il était l'expression aussi d'un certain conservatisme politique, non pas par lui-même, mais par la majorité qui était la sienne. Et pour tout le reste, on pourrait parler aussi du regroupement familial, de toutes ces mesures-là qui ont été prises à ce moment-là. Il est difficile de savoir ce qui a été vraiment le choix de Chirac et le choix de Giscard à ce moment-là. Je pense que l'inspiration est plus quand même du côté du président de la République à ce moment-là pour les grandes réformes.
Premier ministre, Jacques Chirac est à présent au tout devant de la scène et à ce titre, il est souvent invité dans les médias. Les journalistes cherchent, c'est normal, à mieux le cerner tout en appuyant sur les points qui font un peu mal. C'est le cas ici avec Jean-Pierre Elkabbach.
Est-ce que vous allez souvent au cinéma ?
Ben, hélas, pour ne rien vous cacher, pas très souvent, non.
Le dernier film que vous avez vu, c'était en 1950.
Non. J'ai vu un film récemment, un excellent film d'ailleurs, qui s'appelle Le Téléphone Rose.
Il paraît que vous avez dormi pendant le téléphone.
Ah non, c'est tout à fait inexact. Non, j'ai absolument pas dormi. C'était une injure faite à Mireille Darc, qui est charmante.
Et quel autre film avant Le Téléphone Rose ? Est-ce que vous en souvenez ?
Non, je ne me souviens pas du film que j'ai vu avant Le Téléphone Rose.
Et vous pouvez juger de l'évolution du cinéma français ?
Non, je dois dire que je ne me prétends en aucun cas être un expert en matière de cinéma. Et je ne porterai donc pas de jugement.
Je ne pose pas de questions sur le théâtre, vous n'avez pas le temps d'y aller.
Je vais de temps en temps au théâtre, hélas également insuffisamment. Je souhaiterais beaucoup aller au cirque, car j'aime beaucoup les spectacles de cirque. Le dernier que j'ai vu à Moscou m'a beaucoup réjoui. Un spectacle tout à fait remarquable et exceptionnel. Et je remercie les autorités soviétiques de m'avoir permis de le faire. Mais là aussi, malheureusement, je n'ai pas le temps. Encore que j'ai vu qu'on venait de monter un cirque, que le cirque Bouglione venait de monter son chapiteau sur l'esplanade des Invalides à deux pas de Matignon. Et que si par hasard j'ai un petit peu de temps, j'irai volontiers assister à ce spectacle.
Qu'est-ce que vous aimez comme musique, puisqu'on est en train d'essayer de voir vos goûts très très rapidement.
Là, monsieur Elkabbach, vous me cherchez un peu, parce que vous savez très bien que je ne suis pas très musicien. Et ce que vous souhaitez, c'est que je vous réponde que j'aime la trompette de cavalerie, ce qui est vrai, ça. Mais ce qui n'améliorerait pas probablement mon image de marque.
Eh bien, ça vous en soucie un peu.
Je m'en soucie assez peu, il faut bien le reconnaître. Je ne suis pas très musicien de nature.
Jean-Luc Barré, qu'est-ce que vous entendez, vous, dans cette archive ?
Je trouve ça terrible, en fait, je vais vous dire, parce que c'est l'impression d'un homme qui ne parle pas de lui, là. Et c'est un peu la faute des journalistes, franchement, parce que les journalistes, à l'époque, pouvaient savoir, mais ça les dérangeait quelque part de savoir que Chirac est un homme qui aimait Pierre Boulez, qui aimait la musique chinoise. Il ne pouvait pas le dire, il ne voulait pas le dire, ça.
Les journalistes n'en parlaient pas.
Non, mais si on l'avait poussé dans ce retranchement, il l'aurait peut-être dit, mais la question ne lui est pas posée. Vous avez vu la série de questions qui lui sont posées. Chaque fois, il se dérobe. C'est pas qu'il se dérobe, c'est l'autre Chirac, ça. C'est le Chirac officiel. Il a jamais aimé la musique militaire, contrairement à ce qu'il disait. Mais c'était mieux de le dire. De même qu'il disait qu'il aimait le western. Ça, c'est probablement vrai, mais il m'avait dit un jour une chose qui le ressemble beaucoup. Il m'avait dit, j'aime le western, mais moi, ce qu'on sait pas, c'est que je suis du côté des Indiens. Donc, c'était toujours les cultures marginales l'intéressaient. Mais il n'en parle pas il ne voulait pas parler de tout ça. C'est-à-dire, exactement, il parle d'un Chirac qui n'est pas lui. D'où le côté, d'ailleurs, chaque fois un peu mécanique, des réponses, etc. Il aimait la lecture profondément. Mais il n'aimait pas forcément la littérature française, d'ailleurs. Mais il aimait la littérature russe. Il avait traduit Eugène Onéguine dans sa jeunesse. Il aimait la littérature asiatique, japonaise, chinoise. Et je pense qu'il aimait aussi ce genre de cinéma. C'est quelque chose dont il ne voulait pas parler et qui, malgré tout, l'a profondément construit.
À la fin des années 70, Jacques Chirac est devenu un homme politique de premier plan. Mais même s'il est incontournable, sa personnalité est loin de faire l'unanimité. Voici par exemple ce que disait de lui l'acteur Yves Montand en 1978.
Pourquoi je n'aime pas M. Chirac ? Pas en tant que gars, le gars je ne le connais pas, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il était bien au pouvoir, il nous avait quand même dit « nous sortons du tunnel ». Je vois le bout du tunnel. Pendant très longtemps, il nous a dit ça. Il savait très bien qu'on ne sortait pas du tunnel. Pourquoi le disait-il ?
Dans le même registre, écoutez cet extrait d'une interview de l'athlète française Jacqueline André, 85 ans au moment de cette émission. Nous sommes quelques jours seulement avant l'élection de François Mitterrand.
Ah, j'ai une peur terrible.
Mais peur de quoi ?
De Chirac. Une peur.
Mais alors, il n'est pas au gouvernement, Chirac.
Mais non, mais attendez donc.
Pas encore.
Il faut
Vous croyez
que
qu'il va y
être ? Que les députés soient élus. Ouais. Or, qu'est-ce qu'il va faire, Chirac ? Chirac est jeune, dynamique. Il a derrière lui l'argent et toute la droite jeune et dynamique qu'il pousse. Et il est énergique, il est dynamique. Il va faire tout ce qu'il va pouvoir pour que la nouvelle chambre élue soit plutôt à droite. Alors qu'est-ce que pourra faire le pauvre Mitterrand ? Il n'hésitera pas, lui, vous savez, certainement, au besoin à ruiner la France, mais à ce que les lois socialistes ne passent pas.
Jean-Luc Barré ?
Oui, ça a été aussi une image de Chirac à un moment donné, d'un homme très très à droite, beaucoup plus à droite qu'il l'était, parce qu'on a bien vu ensuite que c'était pas le cas. Mais il s'est construit, évidemment, à la fois, il est obligé de se construire contre Giscard, donc contre une forme de libéralisme, il a jamais été libéral, et contre une certaine gauche, qu'il connaissait bien par ailleurs, il avait été ami de Michel Rocard dans sa jeunesse, donc il n'était pas l'ennemi de la gauche, mais à un moment, dans ce registre, j'allais dire, à la fois d'acteur, le registre électoral et d'acteur politique, et à un moment où en effet la droite est le seul parti ou le seul courant dans lequel il peut s'inscrire, c'est la seule manière finalement de se distinguer.
Il n'a pas été libéral.
Je pense qu'il n'est pas vraiment à droite comme on l'a dit.
Été libéral pendant la cohabitation avec Mitterrand quand même.
Mais si, bien sûr, mais parce qu'à à ce moment-là, à nouveau, il y a qu'un moment de vérité chez Chirac, c'est en 95. Le reste du temps, entre 81, 88, il se cherche, il a des registres qui ne sont pas totalement les siens, et qu'est-ce qui peut être porteur du point de vue électoral. Alors vous allez me dire, il était très électoraliste, pourquoi pas, on peut dire ça, mais il n'est pas le seul dans ce domaine-là. Mitterrand l'a été aussi à sa manière. Il y a des postures successives qui ne sont pas exactement le reflet de sa personnalité profonde. Il n'était pas du tout libéral, c'est-à-dire il était même de ce point de vue-là très gaulliste dans le souci de faire en sorte que l'État intervienne le plus possible dans l'économie.
Donc pour vous, le vrai Chirac, c'est le Chirac de la fracture sociale 1995.
Absolument, et malheureusement d'ailleurs, il ne va pas rester longtemps ce Chirac-là, puisqu'on sait très bien que le choix d'Alain Juppé de ce point de vue-là l'a entraîné dans une direction qui n'était pas la bonne, à mon sens, alors que Philippe Séguin aurait été bien meilleur, malgré la personnalité difficile de Philippe Séguin. Je pense que le vrai Chirac, c'est un homme qui sent précisément les fractures sociales, qui sent les problèmes des Français, qui est très social dans son approche, qui a eu d'ailleurs des ministères, le premier ministère qu'il a eu, c'était l'emploi, qui a été au cœur des événements de 68, du point de vue des négociations avec les syndicats. C'est un homme qui a une vraie sensibilité humaniste. Et c'est celle-là qui est véritablement la marque de Chirac. Pour le reste, le facho Chirac est évidemment le contraire absolument de ce qu'il était, mais quelque part ça l'a arrangé, et puis il s'en souciait pas au fond. Voilà, c'est ça le fond des choses, c'est qu'il se souciait pas de son image. Nous sommes aujourd'hui dans une époque où tout le monde construit son image, y compris sur le vide. Eh bien lui, finalement, il s'en souciait pas.
Au début des années 80, Chirac le bulldozer a déjà grimpé presque toutes les marches de la politique hexagonale, mais il lui en reste une dernière, celle qui doit le conduire à l'Élysée. La route jusqu'au palais va s'avérer encore longue et pavée de 18 années en tant que maire de Paris, de 1977 à 1995. C'est donc un élu corrézien qui devient maire de la capitale, d'où la question que nous allons nous poser durant le prochain épisode. Jacques Chirac a-t-il été le moins parisien de tous les maires de Paris ?